Je passe la parole à Sylvia Souparé, qui est psychanalyste à Toulouse et qui nous fait l'honneur de venir jusqu'à nous pour nous parler de la conscience et la politique. Donc pourquoi la politique?
Pourquoi la politique? Alors donc, en guise de contribution à notre séminaire d'école, l'inconscience et la politique, j'ai quant à moi pris le parti de prendre mon départ d'une question. Cette question porte sur le choix de Lacan, assez énigmatique, il faut bien en convenir, de choisir comme définitoire de l'inconscient la politique. D'où le titre de mon intervention de ce soir, pourquoi la politique? Pourquoi définir l'inconscient par la politique? Alors, je considère cette question d'autant plus légitime que depuis le discours de Rome, Lacan nous a plutôt habitués à accentuer le concept d'un inconscient langage. Non seulement un inconscient structuré, comme un langage, mais un inconscient dont le langage, avec ses deux fonctions éminentes, que sont la parole d'une part, l'écrit d'autre part, est la condition. Alors, que Lacan, par la suite, en vienne à proposer que cet inconscient, c'est la politique, et donc à considérer, sinon comme un événement théorique, en tout cas comme un déplacement important, qui est donc mérite d'examen. Je crois que c'est ce qui a déterminé mon collègue du CO à consacrer le séminaire de cette année à cette question. Et ce, d'autant plus qu'on ne peut pas en faire une thèse conjoncturelle, une sorte de concession à l'esprit du temps, pour coller à l'air du temps. Il me semble que si Lacan affirme ça, c'est qu'il a de bonnes raisons de mettre l'accent sur ce point-là. Je veux dire que ce n'est pas au moment de mai 68 ou dans la suite qu'il dit que l'inconscience et la politique, c'est avant. C'est dans ce séminaire sur la logique du fantasme. Or, nous le savons, et le journal ne cesse de le souligner, les Français sont un peuple politique, comme on dit. En effet, prononcer le mot de politique en France suscite toujours un certain émoi. Il n'est donc pas étonnant que la formule avancée par Lacan en 1967, donc bien après ses grands textes sur l'inconscient, fonction et champ de la parole du langage, jusqu'à position de l'inconscient, et avant l'envers de la psychanalyse et radiophonie, que cette formule ait fait fleurisse. Il est encore moins surprenant, me semble-t-il, surtout sur le fond d'une représentation de la psychanalyse qui était alors assez partagée, comme théorie et comme pratique apolitique, disait-on, voire comme idéologie réactionnaire. Vous vous souvenez de ce fameux article paru à la fin des années 40, donc que la formule de Lacan du 10 mai 1967 ait retenti et suscité un certain intérêt. Avec néanmoins quelques risques. Risque théorique d'une confusion de l'inconscient et de la psychanalyse, d'abord. Et risque d'une forme de rémanence du bon vieux freudo-marxisme, d'une part, mais aussi risque pratique d'assimiler l'analyse elle-même à une pratique politique, d'autre part. Soit, au fond, la promotion d'une conception politique de la psychanalyse qui n'est en rien meilleure à sa réduction ou à son appropriation par la médecine ou par la religion. Il me semble que c'est à partir de là qu'il y a un intérêt à déterminer et à scruter beaucoup plus précisément ce que Lacan appelle « politique » lorsqu'il énonce que l'inconscient, c'est la politique. Alors, au-delà de ce caractère un petit peu circonstanciel ou anecdotique, j'ai l'idée que cette formule de Lacan doit être envisagée à partir de ses enjeux, qui sont nombreux et importants, et de sa portée qui est considérable, à mon avis. Par ailleurs, le fait que Lacan ait énoncé cette thèse à un moment particulier de son enseignement, en 1967, c'est-à-dire dans un séminaire qui avait pour visée de dégager une logique du fantasme, fait apparaître cette thèse, à mes yeux, à la fois comme une forme de condensation ou de bilan, une partie de son enseignement, et en même temps, une sorte de bifurcation de cet enseignement. Alors, je vais procéder en longtemps, partir d'abord de la question de l'inconscient langage à l'inconscient politique, puis essayer d'examiner un petit peu comment on peut entendre cet inconscient défini par la politique dans un deuxième temps. Alors, entrons donc à présent dans le vif du sujet. J'ai évoqué plus haut que cette formule selon laquelle l'inconscient, c'est la politique, a non seulement une portée considérable, la catégorie de discours, et en particulier la catégorie de discours du maître va l'attester assez tôt, mais qu'elle présente de nombreux enjeux. Il est incontestable que ce à quoi le nom de Lacan reste le plus attaché, c'est à l'inconscient langage, à l'inconscient structuré comme un langage, dont il fit à la fois la clé de sa lecture de Freud et le principe du choix des ouvrages majeurs de Freud à ses yeux, qu'il va convoquer à l'appui de son axiome, l'inconscient structuré comme un langage, c'est-à-dire l'interprétation du rêve, la psychologie de la vie quotidienne et le mot d'esprit. Alors, l'inconscient ainsi revisité, de mettre l'accent principalement, voire exclusivement, pendant un certain temps, sur le signifiant et sur les lois du langage, métaphore et métonymie, a conduit davantage à une logique, que ce soit la logique du signifiant, expression qu'on utilisait beaucoup dans les années 60-70, ou que ce soit la logique comme science du réel, l'étourdi, donc davantage sur la logique que vers la politique. D'ailleurs, Lacan le soulignait lui-même en 1966, à la sortie de ses écrits, sur la quatrième de couverture des écrits, disait « L'inconscient relève du logique pur, autrement dit du signifiant. » Par ailleurs, le terme même de politique, me semble-t-il, peut-être que dans la discussion, quelque chose d'autre apparaîtra, le terme même de politique était rare sous la plume de Lacan, et là où il apparaissait, avec un certain poids et une certaine consistance, comme dans la direction de la cure et les principes de son pouvoir, par exemple, ce n'est au fond que comme synonyme de finalité. Pourtant, à y regarder de près, on se rend compte que l'option de l'inconscient langage était d'emblée traversée par une tension, une opposition qui était en même temps, par le même problème, c'est toujours en même temps, qui était en même temps une articulation entre l'inconscient comme lieu de l'autre et l'inconscient comme discours de l'autre. Il n'a jamais abandonné l'un pour l'autre, l'inconscient comme lieu, l'inconscient comme discours. De ces deux syntagmes, inconscient comme lieu de l'autre, inconscient comme discours de l'autre, il semble évident que c'est le second qui, rien que par les signifiants qu'il assemble, c'est-à-dire discours d'une part, autre de l'autre, et les équivoques qu'il porte, nous oriente vers le concept d'un inconscient politique. Pourquoi ? D'abord parce que la considération de l'inconscient comme discours de l'autre nous sort immédiatement d'une conception exclusive de l'inconscient comme lieu, avec tout ce qui, d'imaginaire, a pu lui être associé, c'est-à-dire l'intériorité, la profondeur et l'opacité, la psychologie des profondeurs. En effet, de définir l'inconscient comme discours de l'autre, bon, ça c'est avant qu'il élabore la catégorie de discours de 1970, on va y venir. En effet, de définir l'inconscient comme discours de l'autre, va conduire Lacan à en désenclaver le concept, à le rapporter à la parole. Il dira, notamment dans son séminaire 11, que l'inconscient est la somme des effets de la parole sur le sujet. Ça le conduit également à le déplacer de son statut de site de la vérité à celui de savoir, voire de savoir sans sujet. et jusqu'à le lier à la présence de l'analyste lui-même, et donc à situer l'inconscient au dehors. Qui ne se souvient des énoncés mémorables du 15 avril 64, je cite Lacan, « Je dis quelque part que l'inconscient, c'est le discours de l'autre, or le discours de l'autre qu'il s'agit de réaliser, celui de l'inconscient, il n'est pas au-delà de la fermeture, il est au dehors. » Vous vous souvenez que dans « Position de l'inconscient », il dit « Il est dans le fauteuil de l'analyste. » C'est lui qui, par la bouche de l'analyste, a un appel à la réouverture du volet. Alors, cet « au dehors », n'est-ce pas, en somme, une autre manière d'affirmer l'extimité de l'inconscient ? Inconscient, ni intime, ni externe, ni privé, ni public, ni intérieur, ni extérieur, ni individuel, ni collectif. Vous savez que Lacan avait même un temps parlé à son propos de transindividuel, justement pour casser un petit peu cette opposition entre l'intérieur et l'extérieur, le privé. Donc, j'en viens à la question, au fond, que j'ai mis au cœur de mon exposé. Quelle politique ? Donc, comment entendre la politique dont Lacan fait le définitoire de l'inconscient ? Alors, il est difficile, me semble-t-il, au moins jusqu'à la fin des années 60, de considérer que l'inconscient politique, je veux dire l'inconscient comme équivalent à la politique, c'est ça que j'entends par l'inconscient politique, ce n'est pas au sens où l'inconscient serait politique, au sens courant du terme, que cet inconscient politique, donc, soit directement déductible de l'inconscient langage, et encore moins fondé par cette référence. Ce n'est possible, en effet, qu'à la condition d'établir une équivalence entre le social et la politique, d'une part, et d'autre part, de faire de la psychologie collective la matrice de la politique. C'est ce qui me paraît plutôt hasardeux. Si la politique n'est pas le social, ce qui ne veut pas dire qu'un lien social ne puisse être dominé par la politique. D'ailleurs, vous savez, c'est ce que Lacan affirma en 1975 dans ses entretiens dans les universités nord-américaines. Concernant le lien social de son temps, il dit « Notre lien social est dominé par la politique. » Et si le caractère social du langage, par exemple, sous la forme de la langue en tant qu'institution, ne suffit pas à déterminer et à attester qu'il est la politique, il faut peut-être revenir différemment à ce bon vieux terme de politique pour vérifier pourquoi et comment il vient présentifier, à en croire Lacan, l'essence même de l'inconscient. Un passage des quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse relatif à la présence du psychanalyste et à sa responsabilité au regard de la présence de l'inconscient m'a mis sur une voie que je souhaite partager avec vous. Je cite donc Lacan dans le séminaire 11, le 4 concepts, page 116, 117, Lacan disait donc ceci, « La présence du psychanalyste par le versant même où apparaît la vanité de son discours doit être incluse dans le concept de l'inconscient. Psychanalyste d'aujourd'hui, nous avons de cette scorie à tenir compte dans nos opérations, comme le caput mortum de la découverte de l'inconscient. Elle justifie le maintien à l'intérieur de l'analyse d'une position conflictuelle nécessaire à l'existence même de l'analyse. » Et Lacan poursuit, « S'il est vrai que la psychanalyse repose sur un conflit fondamental, sur un drame initial et radical, quant à ce qu'on peut mettre sous la rubrique du psychique, la novation à laquelle j'ai fait allusion et qui se nomme rappel du champ de la fonction de la parole et du langage dans l'expérience psychanalytique, ne prétend pas être une position d'exhaustion par rapport à l'inconscient, puisqu'elle est elle-même intervention dans le conflit. Ce rappel a sa portée immédiate en ceci que lui-même a une incidence transférentielle. Alors, cette voie que nous indique ce passage des concepts fondamentaux n'est peut-être au fond rien d'autre qu'un retour à Freud, et tout particulièrement à cette notion si centrale qu'il a placée au cœur de sa perspective dynamique de l'inconscient et qui s'appelle le conflit. Je propose donc que nous retournions à Freud, pour autant que tous les retours ne sont pas nécessairement régressifs. Il est tout à fait notable, d'ailleurs, que Lacan, au moment d'introduire la formule qui nous occupe, l'inconscience et la politique, cite nommément Freud et prend appui sur lui. Gaëlla le rappelait tout à l'heure. Si Freud écrit quelque part que l'anatomie, c'est le destin, il y a peut-être un moment où, quand on sera revenu à une saine perception de ce que Freud a découvert, on dira, je ne dirai pas la politique, c'est l'inconscient, mais tout simplement que l'inconscient, c'est la politique. Et il ajoute ceci, qui me semble précieux, je veux dire que ce qui lie les hommes entre eux et ce qui les oppose est précisément d'un côté de ce dont nous essayons d'articuler pour l'instant la logique. Alors, pourtant, d'aucuns, notamment du côté de personnes avec lesquelles on a travaillé il n'y a pas très très longtemps, pas pour nous, hein, pas très très longtemps, pourtant d'aucuns s'y sont engouffrés pour promouvoir une opposition irréductible entre Freud et Lacan à propos des relations de l'inconscient et de la politique. L'idée soutenue étant que pour Freud, ce serait la politique qui est l'inconscient, à quoi ils opposent la thèse de Lacan, donc formulée « l'inconscient, c'est la politique ». Alors, je fais allusion là à un ouvrage connu de beaucoup parmi vous, hein, qui est l'ouvrage paru il y a 2 ans, d'Éric Laurent, qui s'appelle « L'envers de la biopolitique, une écriture de la jouissance ». Or, il me semble qu'il n'en est rien. C'est-à-dire que cette question de l'inconscience à la politique n'oppose pas Freud et Lacan, bien au contraire. Il me semble donc qu'il n'en est rien, car aucun énoncé de Freud ne dit explicitement ou implicitement que la politique, c'est l'inconscient. Tout au plus peut-on inférer de ces dits, de dit de Freud, que toute activité humaine, que ce soit la magie, que ce soit l'art, que ce soit la religion, la science, etc., dans toutes ces activités-là, des processus inconscients sont à l'œuvre. Une chose est sûre cependant, Lacan récuse l'idée, freudienne ou pas, selon laquelle la politique c'est l'inconscient. Mais cette récusation ne nous dit rien de ce que recouvre sa propre thèse, qui peut s'aborder d'au moins 2 façons. Je vous soumets. Elle peut, me semble-t-il, s'éclairer de son contexte, et en particulier en partant de la critique de la conception de la névrose développée par Edmund Bergler dans son ouvrage dont Lacan fait grand cas, c'est-à-dire l'ouvrage intitulé « La névrose de base ». Je vous recommande ça parce que c'est vrai qu'il est très très intéressant. C'est au fond la critique précise, rigoureuse, argumentée de la conception de la névrose que l'on retrouve chez nombre des post-freudiens et dont la pierre d'angle est non pas le refoulement et le complexe de castration, mais la régression dans son acception quasi développementale. Mais cette formule ou thèse peut aussi s'éclairer à partir de Freud, avant de l'être à partir de ce que Lacan introduira avec sa théorie des discours. Je souhaite donc repartir de Freud, et tout particulièrement de sa métapsychologie. Comme beaucoup de lecteurs de Freud et de Lacan, peut-être beaucoup parmi vous, il m'est souvent arrivé d'essayer de faire se recouvrir les points de vue freudiens de la métapsychologie, c'est-à-dire un point de vue utopique, dynamique, économique, et les perspectives initiées par Lacan. sans jamais d'ailleurs parvenir à aboutir à une solution tout à fait satisfaisante. En effet, si le point de vue topique s'accorde assez bien avec la perspective du signifiant, et le point de vue économique avec celui de la jouissance, il me semble que le point de vue dynamique a toujours posé problème, en tout cas m'a toujours posé problème. Sans doute parce qu'ici ou là, Lacan l'a moqué. Par exemple, lorsqu'il disait, toujours en 64, il ne suffit pas de dire que l'inconscient est un concept dynamique, puisque c'est substituer l'ordre du mystère le plus courant à un mystère particulier. La force, ça sert en général à désigner un lieu d'opacité. Alors, c'est vrai que quand on lit ça, on a du mal à s'intéresser au point de vue dynamique de Freud. Or, plus décisive encore que la référence à la force, il y a dans le point de vue dynamique chez Freud la question du conflit. Et ça, il est difficile d'en faire l'économie. Conflit qui est loin d'être seulement opposition de force, d'être aussi conflit entre des représentations, des valeurs, des normes, des goûts, etc. C'est même pourquoi cette notion de conflit est si affine avec Lacan, appelle division. La division subjective, ça renvoie au conflit. C'est une traduction, en d'autres termes, de cette question du conflit. Et quand on dit conflit et division, on sait que d'autres catégories cliniques ne sont pas loin. Dans le désordre, on les convoque souvent, le choix, le compromis, donc le symptôme, la solution, etc. Autrement dit, tout ce qui structure le champ politique en tant que tel passe en éthique, quand même. Rien qu'à rester sur le conflit et ses conséquences. Il me semble que l'identité de l'inconscient et de la politique se trouve fondée, à condition bien sûr de ne pas avoir de la politique une conception triviale, politicienne, si je puis. Seulement, l'œuvre de Freud nous permet d'aller plus loin. Je ne m'attendais pas à ce que Mihaela parle du Witz, puisque j'avais marqué du Witz au Clausewitz, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'en bon autrichien, Freud ne connaît pas les liens entre la guerre et la politique. La politique étant toujours du politico-militaire. Alors on sait combien Freud a pu user des catégories militaires et politiques pour penser l'inconscient, pour penser les opérations de l'inconscient. Il suffit de lire son texte pour s'en convaincre. Le refoulement, la résistance, la répression, la défense, mais aussi la censure, la représentation, etc. Nul besoin d'aller plus loin, je crois. Ce qui a été promu comme point de vue dynamique en psychanalyse établit et fonde l'équivalence de la politique comme champ du conflit et de ses traitements, et du champ de l'inconscient découvert par Freud. Mais la problématique du conflit suffit-elle à épuiser ce que l'on nomme la politique ? On vient donc au dernier développement de mon exposé. À cette question, ma réponse est négative, et ce pour une raison simple au fond. La politique, comme l'inconscient d'ailleurs, n'est pas que champ ou instance. Elle est aussi activité et processus, travail, dirait Lacan. Sur ce fond, je dirais qu'il y a au moins deux points d'articulation de l'œuvre de Freud et de l'enseignement de Lacan relatif à la politique qu'on pourrait convoquer ici. Il y a la question de l'impératif, motif de l'impératif, et il y a la question du gouverner. Je fais vite, chacun. Qui demande beaucoup de développement. Donc, avec l'impératif, nous revenons au langage et au signifiant, mais selon une autre modalité que celle par laquelle Lacan a pu l'introduire au départ de son enseignement. En effet, ce n'est point tant le signifiant en tant qu'il évoque, signifie ou représente le sujet qui importe ici, c'est plutôt le signifiant dans sa bêtise, le signifiant qui commande et qui cause la jouissance qui importe ici. C'est que Lacan, désormais, s'intéresse davantage à cette guise du signifiant tout seul, le S1, ou à l'essai, et à travers eux, à la jouissance, qui, à l'opposé du désir, n'est pas de l'autre, justement, n'est pas du grand autre. D'où l'accent que Lacan mettra sur le surmoi, comme impératif de jouissance, et sur la question du symptôme, sur le « ce qui ne cesse pas de s'écrire du symptôme ». Mais, plus intéressant encore pour le thème de notre séminaire, Lacan va reprendre à nouveau frais la question du gouverné, dont il fera le radical de son discours du maître. C'est devenu un lieu commun aujourd'hui que de rappeler l'équivalence que Lacan établit dans son séminaire 17 entre le discours du maître et le discours de l'intention. Mais la question se pose de savoir si nous sommes sûrs d'en avoir saisi tous les ressorts et surtout toutes les conséquences. Une chose semble certaine avec cette catégorie de discours en tant que lien social fondé sur le langage, non seulement Lacan réinscrit la question de la jouissance dans une structure qui convoque et requiert l'autre, mais il promeut une conception du lien social qui fondamentalement est lien des corps et dispositif de traitement de leur jouissance. Si le droit, en tant que figure du discours du maître, assure au niveau de la société et de la culture sa fonction de répartition, de distribution et de rétribution de la jouissance, reste la question de ce qu'il en est de la fonction de l'inconscient pour chaque sujet. Je crois que Mihaela l'a développé à partir d'un cas tout à fait intéressant. L'inconscient, en tant que discours du maître, pouvons-nous le définir comme l'instance ou le dispositif de gouvernement de la jouissance d'un sujet? Et si oui, en vue de quel intérêt gouvernait-il? Je conclue. Il est évident que l'équation l'inconscient égale la politique ouvre sur des questions d'une difficulté certaine. Car énoncer que l'inconscient c'est la politique ne dit guère de quelle politique il est question. Politique de la jouissance? Politique du père? Politique du pire, politique du désir, etc. etc. Ouais. Développer, multiplier les formules, ni quels sont surtout les instruments de cette politique, est-elle assurée par la pulsion, par le symptôme, par le fantasme, par autre chose. Freud, en son temps, avait fait du plaisir la visée de la politique de l'inconscient avant qu'un démenti ne lui vienne depuis la clinique de l'au-delà du principe du plaisir. L'enseignement de Lacan soi-même a connu des variations notables entre ce qu'il développe dans l'éthique de la psychanalyse et encore, par exemple, séminaire 20, où il interprétera comme jouissance ce qu'il tenait jadis dans l'éthique de la psychanalyse chez Aristote comme plaisir. Mais surtout, il me paraît difficile, voire impossible, de considérer que l'inconscient, qu'on le définisse comme discours de l'autre ou comme discours du maître, soit la politique universelle valable pour tous les par-être. S'il est la politique, comme principe d'hétéronomie et d'aliénation, il me semble qu'il se décline en autant de politiques, donc au pluriel, que de mode d'assujettissement à la structure, voire de position subjective ou de mode de jouir singulier. D'où, sinon la nécessité, en tout cas l'intérêt et l'utilité de la psychanalyse, d'une psychanalyse qui, si elle n'est pas la politique, en a une. D'ailleurs, ne peut-on pas aller jusqu'à dire que si l'inconscient, c'est la politique, la psychanalyse, elle, c'est la politique. Politique du petit A. Merci.